J'aimerais demander à Jérôme s'il veut remettre ce message dans les mains du Seigneur. Eh bien, ce matin, j'aimerais bien parler de l'amour, que Dieu a manifesté pour nous. Dieu a manifesté un si grand amour, un amour si merveilleux que nous n'arrivons pas à imaginer à quel point il nous a aimés. J'ai un verset ici, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 32, je vais vous le lire. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu nous a aimés d'un amour si grand et si merveilleux, si immense, que nous n'arrivons pas à imaginer à quel point cet amour est grand. C'est la seule mesure que nous pouvons prendre, c'est le fait que Dieu a donné son propre Fils. C'est le Fils unique de Dieu a été offert en sacrifice pour nous. C'est quelque chose de si grand et de si merveilleux que nous avons du mal à exprimer tout cela par des mots. Mais le problème, c'est que nous avons tellement entendu cette histoire, nous connaissons tellement que le fait que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, que souvent nous avons du mal à à aimer Dieu en retour comme lui nous a tant aimés. C'est lui qui n'a point épargné son propre Fils. Il n'a pas épargné, il a donné pour nous. Nous étions de misérables pécheurs. Il faut comprendre la sainteté infinie de Dieu pour comprendre à quel point nous étions des pécheurs. Dieu est le Dieu saint, infiniment saint. Quand les anges, les séraphins parlent devant Dieu, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dire une fois saint n'est pas suffisant pour exprimer l'immensité de la sainteté de Dieu. Et nous, eh bien, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des personnes qui avons transgressé sa sainteté. Nous sommes allés à l'encontre de sa sainteté. Et Dieu, dans son infini amour pour nous, eh bien, il a donné un moyen pour être de substitution, pour être réconcilié avec lui, et c'est son propre Fils. Nous avons du mal à mesurer tout cet amour. Cette immensité d'amour. Je me rappelle quand les premiers jours de ma conversion, j'ai accepté le Seigneur Jésus, c'était quelque chose de merveilleux. C'est brusquement le Seigneur Jésus est devenu mon sauveur. Et puis j'allais à l'église avec une joie. Vous ne pouvez pas imaginer cette joie merveilleuse. Je prenais mon vélo, à l'époque c'était un vélo, et je prenais mon vélo et j'allais à l'église et j'étais en avance. Largement en avance, la porte n'était pas ouverte. J'étais en avance parfois d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Il n'y avait pas d'auvent. Il y avait juste la largeur du linteau. Et il pleuvait. Et je me tenais contre la porte et l'eau passait juste devant. Mais j'étais l'homme le plus heureux qui est sur la terre. J'étais sauvé. J'étais réconcilié avec Dieu. Il y avait quelque chose de si merveilleux qui chantait dans mon cœur. J'aimais Dieu d'une manière que j'aurais tout donné pour lui. Et en fait, il m'a demandé de tout donner, et en fait, j'ai tout donné aussi. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire, au-delà de toute imagination. Je me rappelle d'une jeune fille, c'est pareil, elle venait de se convertir, elle allait aussi en vélo à l'église, et il pleuvait, elle était mouillée comme ce n'était pas possible, et elle chantait fraîche rosée. Venez inonder mon cœur. Nous avons tous connu, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, un amour si grand et si merveilleux. Il nous a tant aimés et nous l'avons aimé en retour. C'est merveilleux d'aimer le Seigneur Jésus comme cela et de se dire, je suis sauvé. Je suis réconcilié avec Dieu. Il y a la paix dans mon cœur. Il y a entre Dieu et moi une communion si merveilleuse et si extraordinaire. Les superlatifs ne me suffisent pas. Excusez-moi de les répéter si souvent. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis Dieu parle, le Seigneur Jésus parle à une église, l'église d'Éphèse, et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. tu as abandonné ton premier amour. Et nous l'avons tant aimé. Il y a eu ce moment où le cœur chantait, où il y avait tant de joie dans notre cœur. Et puis, au fur et à mesure que les instants se sont passés, les mois, les années, nous avons pris l'habitude de l'amour de Dieu. On en entend parler. Et on est même des appréciateurs de l'amour de Dieu et des bénédictions de Dieu. Et on dit, oh, ben, le Seigneur m'a délivré dans cette situation difficile. J'ai prié, le Seigneur a exaucé la prière. Et on dit, Seigneur, je te remercie. Mais avec un cœur tiède, un cœur à la limite froid. Nous avons perdu notre premier amour. C'est quelque chose de terrible que d'avoir perdu son premier amour. Et même, je ne vous fais pas la leçon, j'ai besoin moi-même de me rappeler à quel point Dieu m'a aimé et qu'il y a eu des moments si merveilleux dans ma vie. Et je me dis, mais tu es tiède. Tu es tiède. Et souvent, dans ma prière, je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis un chrétien tiède. Je ne brûle pas pour toi. Et mon cœur n'est pas enthousiaste pour toi. Je ne lis pas ta parole avec toute la joie que je devrais la lire. J'y prends pas autant de plaisir que je prenais dans le passé. Et c'est malheureusement, c'est la constatation que nous devons faire de temps en temps dans notre vie. Et même parfois, quand je dis de temps en temps, je suis en dehors de la réalité. On doit se dire parfois, Seigneur, mon cœur est bien loin de toi. Mon cœur s'est refroidi vis-à-vis de toi. J'ai perdu mon premier amour. C'est lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. C'est Dieu nous a tellement aimés. Il a tellement donné pour nous. Il a donné au-delà de toute imagination. Nous ne sommes que des petits humains. Des petits humains de rien du tout. Des petits humains rebelles, blasphémateurs, rempli de toutes sortes de choses que je n'ose même pas nommer devant vous. Et nous avons un grand Dieu qui nous aime, et puis nous faisons les difficiles. Nous trouvons que bon, les réunions, il y en a un petit peu trop, que c'est le dimanche matin, et le dimanche c'est fait pour faire un peu la grasse matinée, et puis il y a cette réunion, et puis il y a ceci, et puis il y a ça, et puis on marchande avec Dieu, on lésine, on a plutôt tendance à trouver qu'on en fait un peu trop pour Dieu. Mais Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné son Fils unique pour nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Ce sont des paroles qui ne doivent pas nous laisser dans l'indifférence. Rappelez-vous que vous avez été sauvés, que vous avez été lavés, vous avez été rachetés à un grand prix, un prix que vous ne pouvez même pas imaginer. Est-il possible de faire plus que ce que Dieu a fait pour vous? Et je dis non. Impossible. Et j'ai souvent dit cela et je le dis encore. Mais j'ai un fils. J'ai un fils unique. Et je ne le donnerai pas pour vous. Vous êtes mes amis. Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Mais je ne donnerai pas mon fils pour vous. Peut-être pour qu'il vous soit à votre service, peut-être pour qu'il fasse quelque chose pour vous, qu'il vous dépanne dans un moment difficile, oui, mais pas qu'il donne sa vie pour vous. Mais Dieu, lui, l'a fait. Il a donné son Fils unique. Il a donné pour que nous puissions être sauvés. Et je voudrais vous rappeler cela pour que votre cœur, si jamais il y a eu de la tiédeur, si vous êtes revenu en arrière, si vous avez repris à Dieu, eh bien vous puissiez vous poser la question et vous dire, mais Seigneur, j'aimerais revenir à toi. J'aimerais revenir à une vie chrétienne qui compte sur toi, qui te cherche, qui a soif de toi. Oh, allez sous la pluie à la maison de Dieu. Je me rappelle de ce verset, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Êtes-vous capable de le dire? Êtes-vous capable de le dire chaque jour? Oh, comme j'attends le dimanche matin où je vais revoir les frères et sœurs. Je peux vous dire, parfois, le dimanche matin, je me dis, mais je vais voir un tel, je vais voir une telle, je vais voir un... on est joyeux, on se dit, ah, vivement que l'heure du culte arrive. On se rappelle les frères et sœurs, on prie pour eux, on se dit, ah, le cher frère qui est, et puis la chère sœur, et Seigneur, veuille les bénir, encourage-les, fortifie-les. On s'aime les uns les autres parce qu'il y a l'amour de Christ en nous. Et on a le désir de se rencontrer les uns les autres et de partager des bénédictions, de partager des cantiques, un moment de communion fraternelle, parce que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Alors nous avons soif d'être les uns et les autres ensemble. Nous avons soif que d'autres partagent cette même joie que nous. Mais souvent, eh bien, notre cœur s'est appesanti. Nous avons laissé les choses du monde nous gagner. C'est les soucis de la vie qui étouffent la bonne semence dans notre cœur. Nous avons laissé rentrer, oh ben il faut que je ceci, il faut cela, et puis une autre chose. Je ne nomme rien parce que je ne veux pas que vous preniez cela pour des jugements. C'est les choses matérielles sont neutres. Je l'ai déjà dit et je le redirai toujours. Les choses matérielles sont neutres, elles sont ni bonnes ni mauvaises. C'est l'usage que l'on en fait qui est mauvais. C'est l'attachement de notre cœur à ces choses qui est mauvais. Et ces choses prennent de plus en plus de place dans notre vie et prennent la place du Seigneur Jésus-Christ en nous. Et nous avons souci, est-ce que le travail et les maisons et les ceci et les ça et l'avenir des enfants, ce n'est pas mauvais? Mais ça prend une place que cela ne devrait pas prendre, et ça repousse le Seigneur Jésus-Christ de plus en plus loin dans notre vie. Au lieu d'être à la première place, ce sont ces soucis de la vie qui ont la première place. Nous les entretenons, nous les gardons en nous, et si bien que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, n'est plus aimé comme il devrait être aimé. Nous devons repasser de temps en temps ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour vous, cet instant où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous en rappelez bien? Est-ce que vous vous souvenez de cette heure, cette seconde où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, où il a pris votre vie et vous avez dit, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sauve-moi, lave-moi de mes péchés, réconcilie-moi avec toi. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, mais je reçois ce salut si merveilleux. Il y a eu ce moment où vous avez accepté le Seigneur Jésus. Souvenez-vous de cette joie. Et Paul était obligé de répéter à des chrétiens dans certaines églises, souvenez-vous de ces moments où vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Bon, je mets Paul comme si c'est lui qui avait écrit l'épître aux Hébreux, mais bon, je le pense quand même. Mais souvenez-vous, souvenez-vous. Nous avons besoin de nous rappeler. Et j'ai bien aimé à cette présentation, comment nous a rappelé, Dieu avait dit à Israël, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Vous prenez les cinq premiers livres de Moïse, souviens-toi, souviens-toi. Et les prophètes ont dit, souviens-toi. Nous avons tellement tendance à oublier. Nous sommes humains, ça c'est un fait. Nous ne changeons pas, nous ne pouvons pas être autre chose que des humains. Mais nous avons tendance à oublier, c'est humain. Mais nous devons faire attention à ce qui est humain, parce que ce n'est pas une fatalité. Nous devons nous rappeler ces moments où Dieu nous a sauvés. Nous devons nous rappeler qu'il y a eu un salut, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre vie, qu'à un moment nous avons été réconciliés avec Dieu. Souviens-toi. C'est une prise de conscience et c'est énergiquement même que l'on doit parfois reprendre en main et de dire mais je me suis éloigné. Il y a une dérive. C'est si vous êtes sur un bateau et que vous... Une barque, allez, vous êtes dans une barque et puis vous ne faites plus rien. Vous ne restez pas au même endroit. Vous dérivez. Et puis, il y a des barques qui dérivent plus vite que d'autres. Et même, il y a des barques, même si vous les conduisez, elles ont toujours une tendance à dériver. C'est comme ça. Il y a même un bateau qu'on appelait un dériveur. Pour ceux qui ont fait de la voile, eh bien, vous connaissez ce bateau qui s'appelle un dériveur. Eh bien, nous sommes des dériveurs. On a tendance à s'écarter. Et si nous n'entretenons pas notre vie chrétienne, si nous ne sommes pas ensemble les uns et les autres, si nous ne lisons pas notre Bible, si nous ne prions pas, si nous ne nous intéressons pas aux autres, eh bien, on a tendance à dériver et à perdre le premier amour. Si bien qu'un jour Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, il y a un moment que nous devons prendre un moment et nous dire, est-ce que je me suis éloigné du Seigneur? Est-ce que mon cœur est toujours bouillant pour Dieu? Est-ce qu'il y a toujours cette soif des réunions, cette soif de rencontrer les frères et sœurs, cette soif de prier, cette soif de chanter les cantiques, d'être actif dans la vie de l'Église, dans la propagation de l'Évangile. S'il n'en est pas ainsi, c'est que nous nous sommes encore écartés, nous nous sommes éloignés. Et nous avons besoin de nous souvenir de toutes ces choses. C'est dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, encourageons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres, afin que personne ne s'endurcissent dans la séduction du péché. Nous devons nous encourager, nous fortifier les uns les autres, nous pousser les uns les autres. Notre frère, notre sœur a de l'importance pour nous. Ce n'est pas, nous ne vivons pas tout seuls. Nous avons besoin de nous serrer les coudes, de nous encourager. Mon frère, continue, persévère. Il y a encore, nous ne sommes pas encore arrivés au port. Nous avons encore du chemin à faire. Il faut encore persévérer. On se pousse les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. Et c'est bon d'être encouragés les uns par les autres. Et je n'ai pas dit jugez-vous les uns les autres, mais encouragez-vous les uns les autres. Parce que malheureusement, nous avons tendance à nous juger les uns les autres et à voir nos petits défauts, nos petits trucs, nos petites. Ça, nous sommes des humains et nous avons encore une charge de choses qui ne vont pas. Mais encourageons-nous à persévérer. Allons aux réunions. Faisons ce qui est nécessaire. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Pensons les uns aux autres. Je sais une chose, c'est que si je ne pense qu'à moi, je ne vais pas très loin dans ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne a besoin de vous. J'ai besoin de vous plus que vous pouvez l'imaginer. Et vous avez besoin de moi aussi. Nous sommes un corps. Nous sommes membres les uns des autres. Nous avons besoin de nous encourager, de nous fortifier les uns les autres. Pas de nous juger les uns les autres. Pas de nous accabler les uns les autres. Nous devons avoir de l'amour pour le frère ou la sœur. Nous devons avoir un amour aux larmes pour nos frères et sœurs. C'est de la compassion. Nous devons aimer, même Pierre dit, de nous chérir les uns les autres, de nous aimer ardemment les uns les autres. C'est pas peu de choses. C'est parce que l'amour de Christ est dans notre cœur, c'est parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ que nous nous aimons les uns les autres. Et plus nous nous aimons les uns les autres, et plus nous aimons Christ. Et plus nous aimons Christ, et plus nous nous aimons les uns les autres. Et plus, parce que l'amour, vous savez, ce n'est pas simplement un sentiment, c'est une action. Dans la parole de Dieu, jamais l'amour est un sentiment. Jamais. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est parce que il nous a aimés qu'il a donné son fils. Si nous nous aimons les uns les autres, alors nous allons agir les uns pour les autres. Et l'action la plus merveilleuse que nous pouvons avoir, c'est de penser aux autres et dire, Seigneur, encourage le frère, encourage la sœur, donne-lui la persévérance. Tu vois, Seigneur, c'est pas facile. Tu vois que les difficultés dans lesquelles se trouve un tel ou une telle, amène-les plus près de toi. Seigneur, conduis, dirige. Et si vous avez prié les uns pour les autres, eh bien, vous ne jugerez pas les uns les autres. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. Ce verset, c'est un jour, j'étais dans ma voiture et puis j'avais eu pas mal de dettes. J'ai des contraventions. et que j'avais pas mérité, bien sûr. J'avais été un bon conducteur et c'est injustement. Mais je ne plaisante pas, c'était une injustice. J'avais failli écraser un gendarme, mais il était tellement fâché après moi qu'il m'a donné une grosse contravention. Mais il était au milieu d'une route où il ne devait pas se trouver. Et c'était une immense ligne droite bordée de platanes et le soleil était exactement en face. Et je roulais avec les platanes, mais je ne voyais rien en fait. Et c'est lui était au milieu de la route à arrêter les voitures qui ne devaient pas m'arrêter, c'est tout. Bon, ça c'est de son problème. Mais il a eu tellement peur parce que la personne qui était à côté de moi m'a dit attention, attention, il y a quelqu'un au milieu de la route. Et j'ai freiné et je me suis arrêté très près, mais je l'avais pas vu. Parce que il était dans le soleil. Alors bref, c'est comme ça. Alors j'estimais que bon, c'était injuste. Mais je n'avais pas les moyens de payer cette contravention. Et alors, au moment de la payer, je priais, j'étais dans ma voiture. Je vivais avec mes frères et sœurs. Et donc, pour être tranquille, j'étais dans ma voiture. Et je priais, j'étais vraiment dans un très grand désespoir. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne l'ai pas mérité. Et puis je me suis dit, mais rien ne t'arrive sans la volonté de Dieu. Dieu l'a permis. Il a permis pour un but. Quel est ce but? Alors je me suis dit, mais peut-être que je dois aller en prison. Comme je ne peux pas payer, et bien peut-être que je dois aller en prison et que Dieu a un ministère pour moi en prison. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est pour ça, alors je suis prêt à y aller. Et puis il y a un verset qui est venu dans mon cœur immédiatement. Celui-ci, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et la paix de Dieu est venue dans mon cœur d'une manière tellement grande, tellement merveilleuse, que je savais que Dieu avait une solution. Alors je suis monté dans ma chambre, et puis j'ai ouvert mon livre de méditation, et le verset du jour, c'était celui-là. Alors je dis, Seigneur, alors franchement, si tu le dis deux fois, c'est que vraiment tu as l'intention de me délivrer. Mais le lendemain matin, je peux vous dire, avant que midi arrive, eh bien il m'avait délivré. J'avais reçu tout l'argent qu'il fallait pour payer, au centime, les timbres au poste pour coller sur l'invitation de la police, eh bien, était compris dans la chose. C'est lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous à chaque instant. Vous dites, mais il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Rien que Dieu ait permis. Pas plus loin que Dieu permettra. Satan peut rugir, il peut bondir, il peut être impressionnant. Il est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, mais il ne vous dévorera pas. Parce que Dieu a fixé une limite qu'il ne peut pas franchir. Il n'ira pas plus loin que ce que Dieu a permis. Oh, bien sûr, il y a des chrétiens qui sont allés jusqu'à la mort. Mais ils sont allés jusqu'à la mort accompagnés par celui qui avait déjà donné sa vie pour eux. Et si on avait fait cela au Seigneur Jésus, à plus forte raison, il s'est fait pour nous aussi. Mais il n'ira pas plus loin que ce qui est. Satan ne pourra pas aller plus loin que ce que Dieu a permis, que ce que Dieu a décidé pour vous. Il a un plan merveilleux. Il a quelque chose de merveilleux pour vous. Mais il compte sur vous. Son plan est extraordinaire parce que c'est un plan divin. Dieu a toujours quelque chose de merveilleux, quelque chose qui dépasse notre imagination. Vous êtes dans des circonstances difficiles, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. C'est votre responsabilité, c'est l'acte de foi vis-à-vis de Dieu de lui rendre grâce, de lui dire Seigneur, rien ne peut m'arriver au-delà de ce que tu as permis. Et même si ça doit aller plus loin que ce que j'aimerais, tu me donneras la force, le courage et l'énergie d'aller jusqu'au bout et de glorifier jusqu'au bout. Dieu nous aime infiniment, infiniment et infiniment plus que vous l'imaginez. Mais il attend en retour que nous l'aimions et que nous ayons de l'amour les uns pour les autres, un désir toujours plus grand de sa gloire, que nous fassions ce qui est juste, ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur Jésus avait dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est quand on aime Dieu, on lui obéit, on fait ce qu'il dit. Et quand Dieu parle dans sa parole, eh bien, nous tenons compte de ce qu'il a dit et nous mettons notre vie en accord avec la parole et nous faisons ce qu'il nous demande, ce qu'il nous commande. Eh bien, je peux dire une chose, c'est que de temps en temps, on trouve que les paroles du Seigneur Jésus sont dures. Et on dit, Seigneur, qui peut supporter de telles paroles? Mais les anciens chrétiens disaient, la croix porte ce qui la porte. Et j'aime beaucoup cette phrase, et je vous la transmets. C'est un héritage que nous avons de nos ancêtres chrétiens des siècles passés. La croix porte ce qui la porte. Si vous portez la croix, elle vous portera. Et même, je me rappelle, les premiers chrétiens avaient une image. C'est dans les messages que l'on a des premiers chrétiens. Il disait, un oiseau porte ses ailes. C'est une charge. Et quand il marche à terre. Mais dès que vient un danger, ses ailes le portent. Et en fait, eh bien, nous sommes comme ces oiseaux. C'est vrai que nous avons l'impression de porter quelque chose qui est une charge sur nous. Mais cette charge devient notre secours. Quand nous sommes dans les difficultés, il suffit simplement de dire Seigneur, délivre-moi, interviens, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, je t'ai donné ma vie. Alors cette vie n'est pas à moi, je la confie entre tes mains. Conduis toutes choses, dirige. Tu m'aimes, je t'aime. Je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté, je veux faire ce qui t'est agréable, aller jusqu'au bout avec toi. Et puis, dans le passage, les versets que nous n'avons pas lus, il y a plusieurs mots que j'ai notés. Qui accusera les élus de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui va accuser? Qui condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et à chaque fois, rien, rien, rien. Et puis, il y a ce verset, les versets 38 et 39 que je vais vous lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis, j'avais médité ces versets. Je dis, ah, mais il y a quelque chose qui n'est pas mentionné là. C'est moi-même. Je peux, par un acte de désobéissance, m'éloigner de Dieu. Et puis, en lisant plus tard, j'ai vu, ni aucune autre créature. J'en suis une. Même moi, je ne peux pas me séparer de l'amour de Christ. Alors, dans la marge de ma Bible, j'ai noté rien. Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a payé le plus grand prix. Il a donné au-delà de toute imagination. Mais est-ce que nous aimons toujours Dieu comme il le faut? Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Il n'y a pas de plus grand commandement. Et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est toute la loi et les prophètes. Et nous avons besoin de nous repentir, si nous sommes éloignés de Dieu, de faire le compte. Vous savez, nous sommes des humains comme les autres. Vous êtes éloignés de Dieu? Moi aussi, m'est arrivé de m'éloigner de Dieu. Je vous le confesse, je vous l'avoue. Mais il y a des moments où je me suis dit, non, tu es loin de Dieu. Il faut que tu reviennes au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je reconnais mes péchés, je reconnais mes transgressions, je reconnais ce qui ne va pas. Je m'humilie. Si tu dis un péché, je dirai Amen. Si tu condamnes quelque chose dans ma vie, eh bien je dis, Seigneur, oui, moi je le condamne avec toi. Je me joins à toi pour dire, ça, je ne dois pas le faire et je l'ai fait. Et je te demande pardon. Et on va jusqu'au bout. On ne se laisse aucune porte de sortie jusqu'à ce que l'on soit complètement revenu au Seigneur. C'est ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est peut-être que c'est la parole que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Nous sommes dans un monde facile, dans un monde matérialiste, et nous laissons les choses prendre la place de Dieu dans notre vie. Et il est presque certain que pour chacun d'entre nous, Dieu a besoin de nous dire que nous avons abandonné le premier amour. Même si nous ne l'avons pas abandonné complètement, nous avons abandonné d'une certaine manière et à un certain degré. Certains beaucoup, d'autres moins. Mais néanmoins, nous l'avons quand même abandonné dans une certaine mesure. Et nous avons besoin de revenir au Seigneur et de dire, Seigneur, prends la première place dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois ma lumière, mon soleil, ma joie, mon bonheur, tout ce dont j'ai besoin. Je me remets entre tes mains. Prends la première place en moi. Nous allons prier. Ô Seigneur, nous voulons.